France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois Arnaud Delbar, qui a dirigé jusqu'en 2015 le plus célèbre musical français, l'Olympia. Issu du monde de la chanson, Arnaud Delbar est également le fils de Raoul de Godswarsveld. Vous savez, celui qui a honte quand la mer monte, on en parle dans un instant. En fin d'émission, le bouquet de musique légère de Serge et Laïc. Mais tiens, puisque nous allons parler de l'Olympia, commençons par une opérette de son illustre patron, Bruno Cocatrix.
Chers auditeurs, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que la musique. N'est-ce pas? Parce que chaque note, n'est-ce pas, évoque quelque chose. Chaque bruit, qu'il soit insolite ou non, mais il représente quelque chose, n'est-ce pas? Je sais pas si vous me suivez bien. Mais chaque son, il y a une image. Je vais vous donner des exemples, justement, pour que vous compreniez mieux, pour que nous puissions nous évader ensemble. Bon, écoutez. Ça, c'est le vent dans la ramure. Vous voyez l'image, naturellement, n'est-ce pas? Ça, c'est le murmure des petits oiseaux. Quand ils sont enroués, naturellement, ça va sans dire. C'est le glou-glou de l'apéro. Excusez-moi. Ça, comprend qui veut. Chaque note évoque la vie. Chaque son évoque un climat. Beauté de la poésie. L'univers ne serait qu'un chaos, sans tes sols, sans tes nids, sans tes dos. Musique, 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 musique. L'univers ne serait qu'un fatras, sans tes rêves, sans tes nids, sans tes pas. Ah oui, je t'aime, musique, musique. Ah oui, je t'aime, éperdu. Écoutez plutôt.
Un extrait du Maharaja, une opérette créée à l'Alhambra en décembre 1947, musique de Bruno Cocatrix, interprétée bien sûr par Bourvil, qui sait si bien conjuguer le rire et l'émotion. Et puisque j'emploie le mot émotion, je voudrais dire toute ma tristesse après la disparition de Jean-Michel Damian qui nous a quittés cette semaine. Tristesse et reconnaissance parce que c'est Jean-Michel qui m'a fait faire mes premiers pas à la radio. C'était à la fin des années 80. Il nous avait repérés avec Jean-François Zigel et quelques jeunes gens dont les idées parfois polémiques lui paraissaient intéressantes. Il nous avait alors invités à organiser épisodiquement des programmes entiers pour son émission du samedi après-midi. C'est ainsi que j'ai pu concocter une première émission sur André Messager, puis sur Reynaldo Hahn ou encore Albert Roussel, et que j'ai pris le goût de la radio grâce à Jean-Michel Damian, dont la voix chaleureuse, la culture et le merveilleux salon musical du samedi restent pour moi d'irremplaçables souvenirs. J'ajoute que plus tard, alors que j'étais devenu producteur, Jean-Michel gardait toujours une oreille pour ces musiques légères qui n'étaient pas forcément au cœur de son goût musical, mais qu'il appréciait au point de me demander parfois de lui prêter des disques, comme celui-ci que j'ai ressorti et qu'il adorait. Ça s'appelle Clarinette comique. Un sourire un peu triste en pensant à notre ami Jean-Michel Damian. C'était Clarinette comique par l'orchestre Robert Renard avec à la clarinette Albert Brao en 1937.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît. France Musique.
Mais il est temps maintenant de retrouver mon invité qui a dirigé pendant plus de 10 ans l'Olympia, qui a le goût du music-hall, qui a essayé de le faire revivre à sa façon et qui a baigné aussi depuis le plus jeune âge dans le monde de la chanson avec son père Raoul Godswarsveld. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Arnaud Delbar.
J'aime le music hall, c'est le refuge des chanteurs-poètes, ceux qui se montent pas du col et qui restent pour ça de grandes gentilles vedettes. Moi, j'aime Juliette Gréco, Mouloudji, Ulmer, les frères Jacques. J'aime à tous les échos Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. J'aime les boulevards de Paris, quand Yves Montand qui sourit, les chante, et ça m'enchante. J'adore aussi ces grands garçons de la chanson, les compagnons, ding, ding, dong. Ça, c'est du music-hall, on dira tout ce qu'on peut en dire, mais ça restera toujours, toujours l'école. On en apprend à mieux voir
entendre, applaudir, à s'émouvoir en se fendant de larmes ou de rire. Voilà pourquoi la do mi sol, j'aimerais toujours le musical. J'aimerais toujours, 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 toujours le musical. Ba 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 ba. J'aimerais toujours le musical. J'aimerais toujours.
Bonjour Arnaud Delbar.
Bonjour.
Je ne vais pas vous demander si vous aimez le musical, mais une chose qui me frappe aujourd'hui quand on prononce l'expression de musical, beaucoup de gens assimilent ça à quelque chose d'autrefois, hein, une espèce de vieillard du spectacle, d'avant-guerre, etc. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui, le musical ?
Non seulement ça a un sens, mais ça reprend du sens. Et d'ailleurs, c'est incroyable d'écouter le texte. Ouais. Et vraiment, j'invite les auditeurs, je pense qu'ils l'ont fait, mais
ce
à bien écouter le texte.
Traîner,
c'est
oui.
un chef-d'œuvre
1955.
D'écriture. Et ça raconte ce qu'est notre métier, quoi. Ça raconte ce qu'est ce métier à la fois d'artisan et à la fois de folie et à la fois maintenant avec les médias, avec les réseaux sociaux. Mais on en vient toujours à l'essentiel. C'est ce qu'on s'est oublié un peu certains chevaliers d'industrie. Mais c'est qu'il faut avant tout des artistes et il faut avant tout un mec qui soit avec son crayon devant sa feuille de papier à flipper, à dire ce qu'il va écrire ou à vivre des choses avec des copains et à se mettre autour d'un piano ou d'un synthétiseur. C'est toujours de l'artisanat.
Ouais. D'ailleurs, quand vous aviez repris la direction de l'Olympia, j'ai vu que dans vos projets, au tout début, les plus affichés, il y avait justement de relancer le vrai musical, y compris d'ailleurs d'aller chercher des attractions. Vous aviez chargé quelqu'un d'aller repérer des talents, etc.
Ah non, mais attendez,
le mélange des genres.
Ah ben, je suis arrivé le 2 mars. C'était d'ailleurs Danny Boone qui était à l'Olympia. Il était écrit « Chicon Productions présente Danny Boone » pour un ch'ti, Chicon Productions, ça, c'était magnifique. Et il était écrit en lettres rouges, lumineuses, ouais. Direction 2. Paulette et Patricia Cocatrix. Et lorsque j'arrive, Yvette, qui est devenue mon assistante après, me dit « Monsieur Delbar, j'ai prévu de mettre direction 2. Arnaud Delbar ». Je dis « Mais même pas question ». Alors là, elle me regarde paniquée, elle me dit « Mais qu'est-ce qu'on va mettre ?» Et je dis, on va mettre musical.
Ben oui, c'est ça.
Et elle me dit, mais vous savez que ça n'a jamais été mis sur la façade de l'Olympia. Ben je dis, voilà, ben il faudrait bien un début. Et donc, du coup, après, j'ai eu les idées de refaire des attractions dans le hall, de refaire les entractes, des attractions dans le hall dans lequel on démarrait des types comme Thomas VDB, Julie Ferrier, énormément d'artistes comme ça, qui étaient des artistes qui étaient circassiens et qui venaient apporter quelque chose, un peu cette odeur, un peu, et qui ne pouvait être qu'à l'Olympia, quoi.
La graine a pris, il y a d'autres producteurs de spectacles qui essayent de garder cet esprit du mélange
oui,
des gens.
Bien sûr,
gens.
Ça, ça a été très 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 utile, ne serait-ce que pour les premières parties, puisque avant ce n'était pas imposé. Et lorsque je suis arrivé, moi j'ai imposé les premières parties, parce qu'il y avait, s'il n'y avait pas de première partie, il y avait une amende. Et ça, les producteurs de spectacles le comprennent très bien lorsqu'il y a une amende.
Alors vous avez été, Arnaud Delbar, donc directeur de l'Olympia de 2002 à 2015. Bon, ça on va évidemment en reparler, parce que c'est une histoire qui a toute sa place dans cette émission, où j'avais d'ailleurs reçu également
Jean-Michel
Boris pour une émission passionnante sur l'histoire de cette maison. D'une façon générale, vous êtes à la fois, c'est peut-être ça le musical, un rocker, un organisateur de spectacles, vous mélangez les genres, et c'est quoi le fil conducteur au fond de votre activité ?
Alors, aujourd'hui, j'ai une activité qui est très réduite, je passe beaucoup plus de temps en famille, je passe beaucoup plus de temps avec mon épouse, mais je conseille sur des projets qui m'intéresse et j'apporte mon savoir-faire et mon expérience à des amis, donc à mon ami, on en parlait tout à l'heure, Valérie Zetoun pour Un été 44 et puis d'autres choses, mais de manière quand même très très ponctuelle, parce que j'ai quand même passé 15 ans plus, j'ai passé 25 ans à 250 à l'heure.
Mais votre vie de musicien garde une petite place ? Vous-même.
Une toute petite place. J'ai fait une partie de basse sur l'album d'Un été 44. Sur la chanson de Maxime Le Forestier, j'ai fait la partie de basse, voilà. Mais non, très peu, très peu, très très peu.
Alors, on va reparler de tout ça, mais on va commencer par parler d'un artiste qui a joué un assez grand rôle dans votre vie, à commencer d'ailleurs par le fait que c'est lui qui vous a mis au monde.
Ouais, avec ma maman.
Votre père, son nom d'artiste, c'est Raoul de Godvarsveld.
On est parti te porter tous en terre. Il y avait Michel et Robert et puis moi. Après, bien sûr, on est venu boire un verre. Et comme de juste, on a tous parlé de toi. On a dit tout ce qu'on savait sur ton compte. On a payé tes avoisins en retard. Passé minuit avec chacun son compte. On s'est trouvé tout con sur le boulevard. si vous saviez comme ils sont les artistes, si vous le saviez, nous n'en serions pas là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, on n'aurait pas enterré celui-là. Toi qui es parti comme un grand malhonnête, t'as laissé Pierre et Robert et puis moi. On n'a plus rien que le bourdon dans la tête, ça fait beaucoup d'orphelins à la fois. Y'a pas idée de filer à l'anglaise, comme tu l'as fait sans rien dire aux copains. Il fait pas chaud, tu sais, dans la terre glaise, tu seras tout seul et puis t'auras l'air fin. Si vous saviez comme ils sont les artistes, si vous saviez, nous n'en serions pas là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, on n'aurait pas enterré celui-là. Moi pour une fois j'ai fermé ma grande gueule, tout comme Robert, Michel et Picois. La joie de vivre elle est repartie toute seule, et d'un seul coup avec nos gueules de bois. On a chanté nos chansons tous ensemble, on a fini par boire à ta santé, à la santé de ceux qui te ressemblent, en espérant qu'il nous en est resté. Si vous saviez comme ils sont les artistes, si vous le saviez, nous n'en serions pas là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, on n'aurait pas enterré celui-là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, si vous le saviez, nous n'en serions pas là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, on n'aurait pas enterré celui-là.
Adieu pour un artiste, Raoul de Godvarsveld. Alors, vous venez de me préciser, Arnaud Delbarque, c'est notre ami Marcel Azola qui était à l'accordéon ce jour de 1973 où il a enregistré cette chanson de Bernard Dimet.
C'est Bernard Dimet qui a écrit le texte et cette chanson, et le texte de cette chanson est incroyable parce que papa est parti
4 ans plus tard.
S'est donné à mort en 77, le 14 avril, dans sa maison du Cap Griné au bord de la mer, de cette mer qu'il aimait tant. Et ses obsèques, d'ailleurs, sur sa tombe, il y a écrit « Si vous saviez comme ils sont les artistes, 3 petits points », et le texte de Bernard c'est incroyablement
prémonitoire,
mais complètement prémonitoire, parce qu'il y a tous les prénoms de ses copains qui sont là, Pierre Célie, Robert, etc. Enfin, voilà.
Quand on parle de votre père, alors on voit toujours revenir le mot gargantuesque, 1m92, 120 kilos, grande nature, comme et comme sa voix d'ailleurs.
C'était un personnage, et c'est d'ailleurs devenu maintenant une légende du Nord, puisqu'il a son géant
à Lille.
À Lille, qui est le géant de Lille, c'est Raoul. Il y a Lidéric et Finard qui sont les deux géants historiques, et il y a le géant Raoul. Et à tel point que ce géant est tellement demandé, sort tellement dans les fêtes, c'est que c'est le deuxième géant. Ils ont dû en reconstruire un, parce que l'autre était usé. Il est porteur, c'est des associations de porteurs chez les ch'tis, se battent pour porter Raoul. Et maintenant, il y a sa bière, il y a la Raoul. Enfin, non, les gens me racontent de mon petit village, ils me racontent des histoires. Ça devient légendaire, des choses qu'aurait faites mon père, et je ne les dément pas, mais c'est gargantuesque.
Son vrai nom, c'était Francis Albert Victor Delbar, comme vous, bien sûr. Godvarsveld, c'est son nom d'artiste, et d'ailleurs, il n'avait pas spécialement prévu de faire une carrière de chanteur, hein. Il avait une boîte de photographie,
il était photographe.
Il travaillait beaucoup à la Foire de Lille, etc.
Il était photographe, reporter photographe et photographe d'architecture. Nous sommes photographes pendant 4 générations. Hein, donc,
de père en fils.
De père en fils, moi aussi j'ai été photographe un peu, et il voulait pas. Il était avec les Capenouls.
Les Capenouls, c'était un groupe qui chantait
des chansons paillardes.
Qui
avait fait plusieurs albums, qui sont d'ailleurs magnifiques. Mais comme il y avait dans ces Capenouls énormément de personnalités, avocats, médecins, hommes politiques, etc., qui pouvaient pas mettre leur nom à l'époque. Hein, on est en 64, 63, 64. C'était un peu difficile. Donc ils avaient inventé plein de noms. Émile de Vaugelas, Morin, Marcel Van Petrinck, et Raoul de Godvarsveld. parce que Godwarsveld est un petit village des Flandres, qui veut dire Dieu protège nos champs. Et puis, un jour, il a fait ce disque qui s'appelle Tu ne seras jamais qu'un employé, avec cette voix où on ne le voyait pas, Raoul de Godwarsveld. Et c'est Jean-Yann qui, en entendant cela, a dit à Pierre et Michel Sely, ses producteurs, ce type a une voix extraordinaire, il faut absolument... Et puis toute l'histoire...
Donc Jean-Yann a joué un rôle déterminant dans le passage à l'acte, si j'ose dire.
À Capital. Ils étaient très proches, ils s'entendaient très bien.
Vous, votre père, j'imagine que ça a été très dur quand il est mort si jeune, mais vous l'avez vu comment quand vous étiez un enfant?
Moi, je suis né en 58, ouais. Papa est parti en 77, donc moi, lorsqu'il est parti, j'avais 18 ans. Ouais. J'étais déjà musicien, mais j'ai fait toute mon adolescence en le suivant dans ces galas et sur scène, et j'étais le fils de la vedette, et c'était un peu compliqué, parce qu'il faut se dire que Raoul, dans le Nord, c'était... énorme, oui, quoi. C'était vraiment...
Il est devenu une légende, mais il était déjà très populaire.
Il était extrêmement populaire. Et je me rappelle d'ailleurs une anecdote. La dernière braderie que j'ai fait avec lui, braderie de Lille, on a dû se sauver. Ça lui a fait beaucoup de mal, parce qu'il n'était pas bien. Il ne pouvait pas faire 5 mètres sans dédicacer. Et pourtant, il n'était pas habillé, comme il disait, en Raoul. Il avait pas la casquette, il n'avait pas... Mais on a dû partir.
Alors, il est mort jeune, hein, mais il a quand même laissé pas mal de chansons. J'ai vu un triple album avec des quantités de morceaux. Il y a même de l'opérette, Les Cloches de Corneville.
C'est magnifique, ça c'est extraordinaire. Ouais,
ça m'a vraiment fait plaisir.
Ah, oui.
Et puis, alors, il y a donc cette chanson culte que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a même été le nom d'un film en 2004.
Gilles Porte.
Vous avez aimé ce film, d'ailleurs?
Non seulement j'ai adoré ce film, mais...
Quand la mer monte.
Yolande et Yolande Moreau et Gilles Porte, Yolande qui est une amie de ma sœur, est venue nous voir, et puis elle n'osait pas, mais ce serait fort. Et puis on a bien évidemment dit oui. Et Gilles dit que le titre a tellement joué par rapport au succès du film, etc. Enfin, c'est un tout, ce film, est une merveille.
Alors, voilà, une chose un petit peu rare, parce que tout le monde connaît aujourd'hui « Quand la mer monte ». On ne sait pas forcément que cette chanson a été créée, bien sûr, par votre père, mais écrite pour lui, par un de ses grands amis, qui était Jean-Claude Darnal. Et on va écouter, on va parler tout de suite de Darnal, mais on va peut-être écouter la version de Jean-Claude Darnal dans cette chanson, beaucoup plus connue, évidemment, dans la version de votre père.
Près du Cap Griné, quand j'ai fini de pêcher, on se retrouve chez Léonce, on est 11. On mesure les poissons en vidant des canons, et l'on passe vite le cap car ça tape. Bientôt plus de Cap Griné, encore moins de Cap Blanc, mais ce qu'on voit c'est nos nez tout rouges. Et quand les verres que je lève ôtent le sel sur mes lèvres, moi je pense à Marie qui est partie. Et je regarde en rêvant le ridan. L'autre côté de la mer, les collines d'Angleterre montrent que le monde par ici est tout petit. Et à gorge déployée, sur le flot déchaîné, je l'appelle à grands cris, viens Marie. Tête calmement, pour pêcher que c'est le bon temps, mon filet me la rendra dans mes bras. Avec un autre.
Jean-Claude Darnal dans cette chanson qu'il avait donc écrite pour son ami Raoul de Godvarsveld. Jean-Claude Darnal, qui lui d'ailleurs nous a quittés en 2011. J'avais le plaisir de le recevoir ici. Mais alors j'ai vu, Arnaud Delbarque, que vous aviez participé à un hommage en chanson en 2013 à Jean-Claude Darnal. C'était vraiment un proche de la famille. Donc.
C'était un proche de la famille, c'était un être exceptionnel. Et moi, je l'ai connu donc à l'époque, c'était en 69, donc j'avais 11 ans au Cap Grinet. Et il allait beaucoup à la pêche avec mon père.
Ils allaient à la pêche ensemble. Il était du Nord aussi.
Il était de Douai. Ouais. Il était de Douai. Pour moi, c'était la vedette, parce qu'il faut se souvenir que Jean-Claude Darnal
avait,
à cette époque-là, son émission tous les jeudis après-midi, l'émission pour les enfants à la télé, et que c'était la vedette, c'était le Dorothée, mais encore plus de ça. Et je le voyais arriver dans sa Ford Mustang décapotable, c'était pour moi...
Puis il avait eu des très grands succès dans les années 50-60,
le Tour du Monde,
mais malheureusement.
C'est une merveille, mais non, mais voilà, c'était un homme de musicaux. Il avait fait aussi la musique de la R5. La première musique de la R5, c'était Jean-Claude qui l'avait faite.
Voilà, donc ça c'est la famille, on peut dire, de Raoul de Godvarsveld.
Ouais, c'est les ch'tis, vous savez comment on est, nous, les ch'tis.
Voilà,
hein,
voilà, c'est ça.
On est fort, fort amiteux, comme on dit.
Néanmoins, comme vous nous l'avez suggéré, quand, j'imagine, jeune adolescent, vous avez commencé à vouloir vous-même gratter de la guitare et devenir musicien, c'était pas forcément si facile que ça avec votre père.
Ah non, il était farouchement contre.
Ah oui, farouchement contre.
Hein. Et en même temps, il était farouchement contre, et en même temps, c'est lui qui m'a offert ma première basse.
Ah
c'était très étrange. Mais parce que lui, les musiciens, pour lui, il voyait, quoi. Dans sa tête, c'est les ouvriers de la musique, quoi. Parce que, avec. Bon, lui, il gagnait.
Mais il avait eu un grand succès en même temps. Par exemple, Quand la mer monte, il avait.
Mais lui, il était vedette.
Il était vedette.
Mais derrière, il avait les musiciens.
Il voyait que ça ramait,
il savait combien il les payait. Et donc, il voulait pas que je parte là-dedans. Et puis.
Donc,
et puis,
la réaction, ça a été d'abord, tu vas travailler, quoi, quand vous avez arrêté l'école.
Ah ben, c'était immédiat, même. Puisque lorsque je me suis fait virer de l'école, j'avais 16 ans, et c'était un jeudi, et il m'a dit, garçon, t'as le choix, lundi c'est ou la True, transport des résidus urbains, donc c'était à l'arrière du camion, ou l'imprimerie Plancarte, qui était une imprimerie au plomb, à Lille, et qui était une imprimerie maçonnique, d'ailleurs j'ai beaucoup appris, et donc j'ai vite choisi entre la True et derrière les poubelles.
Oui, vous avez préféré l'imprimerie quand même. C'est plus...
Et ça a été une école extraordinaire pour moi, parce que j'ai rencontré là des ouvriers imprimeurs, et j'ai appris cet amour du travail, cet amour du respect, du savoir, et j'ai appris ça à ce moment-là, et je remercie le Seigneur tous les jours, et mon père, parce que ça m'a terminé mon éducation ouvrière.
Alors c'est vraiment quand votre père nous a quittés en 1977 que vous êtes finalement devenu musicien.
Oui, alors je suis devenu musicien, mais en même temps, il y avait son affaire de photographie que l'on ne pouvait pas abandonner, ma sœur et moi, pour protéger l'héritage de ma mère, quoi, qui était toujours vivante, voilà. Et donc, ce qui fait que je jouais du bal, j'étais musicien de bal dans toute la France, et donc je partais vendredi, samedi, dimanche, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'étais photographe. Donc c'était extraordinaire, c'était une période extraordinaire. Et puis ensuite, une fois qu'on a eu sauvé le patrimoine de ma mère, j'ai dit bon, voilà, on a tout mis au carré, on a arrêté l'affaire de photographie, et puis là, je me suis complètement lancé dans mon métier, ma passion, qui était la musique, qui est... J'ai l'habitude de dire, j'étais pas un très très bon musicien, mais j'ai toujours aimé tout ce qu'il y a autour de la musique.
Ouais.
L'édition, le business.
Ouais.
Les filles, voilà. mais le business m'a toujours plus passionné que la musique en soi. Voilà.
C'était qui vos idoles de jeune homme en musique, justement?
Ah ben alors là, j'imagine que ça va vous plaire. Moi, j'étais fan absolu. Je le suis toujours, au grand dam de ma femme, puisque la moindre chanson fait 20 minutes. Mais Yes, King Crimson,
d'accord.
Genesis, Gentle Giant.
Ah oui, le rock progressif.
Vandagraaf Generator. Oui, bien sûr, tout ça. Et après, le hard rock est arrivé derrière.
Et le hard rock est arrivé parce que moi, j'ai écouté un peu les disques des Stox.
Ah, ça rigolait pas.
Le groupe dont vous avez fait partie, là, c'est du solide. Justement, la partie basse, batterie, le soutien, ça tourne comme du vieux blues, mais avec un gros son de hard rock.
Ouais, c'est ça. C'est une rencontre. C'est une rencontre avec Christophe Marquis, qui était le leader de Stox. C'est une suite de rencontres, de hasard. Un premier album, un deuxième album, les tournées aux États-Unis. Enfin, voilà.
On va vous retrouver, Arnaud Delbarque, justement, dans une chanson flashback.
Ouais.
Un mot sur le morceau
Oh, bah, c'est un blues laid back, typiquement américain, mais avec un travail sur le texte qui a été, je crois que c'est un des meilleurs textes qu'a fait Christophe, et puis cette voix qui est très forte. Alors sur scène, on s'amusait, un coup c'était lui qui l'a chanté, un coup c'était moi qui l'a chanté.
Et là
c'est lui.
Et à la basse, c'est vous?
C'est moi, basse, et Bobby à la batterie. Oui.
Un jour, me soulever tout doucement sur la route qui me ramène à Paris. Ma caisse me tire péniblement sur l'asphalte qui brille et m'éblouit. Et elle murmure tout en dormant qu'elle a bien fait de me rencontrer cette nuit. Les gens brillaient son tableau de bord, des frissons lui parcourent tout le corps. J'ai eu raison ou j'ai eu tort, j'aurais peut-être pas dû la charger si fort. À la radio, un vieux blues sort à peu près toujours les mêmes accords.
Vous aviez 26 ans, Arnaud Delbar, vous étiez avec les Stox dans Flashback, à la basse, mais on peut dire que la basse est assez au premier plan quand même.
Elle est au premier plan, elle est tout en finesse et en délicatesse.
Ouais.
C'est drôle de réécouter ça, mais c'est cette grosse machine blues avec le batteur. Et à tel point que j'avais demandé à l'époque, et il a toujours refusé, j'avais demandé à mon luthier, Michel Scamp, parce que je salue s'il nous écoute, je sais qu'il écoute France Musique, je lui avais dit « fais-moi une basse à deux cordes ». Voilà. Parce que, avec ce que, la manière dont je joue, j'ai pas besoin de plus.
Quoi. Besoin de plus.
Il a jamais voulu.
Bon, ce qui me fait plaisir, moi, c'est que c'est du rock. Je sais pas si c'est du rock français, si ça existe, le rock français. En tout cas, c'est du rock en français.
Ouais.
Ce qui devient un peu rare aujourd'hui, hein.
On a l'impression
que tous les jeunes artistes croient qu'il faut chanter anglais pour faire du rock.
Ouais, et puis bon, on est avec Valérie Zetoun. D'ailleurs, on en parlait encore hier soir. On était une discussion avec la SACEM. Effectivement, il y a cette histoire, pour être deux minutes sérieux, il y a les quotas, c'est important.
Oui.
Mais il y a aussi la mondialisation de la toile et les gamins, maintenant, ont l'impression que s'ils chantent en anglais, bon, voilà. Alors, je sais pas si on est des vieux cons ou pas, mais je pense qu'il faut. Non, le vrai souci, c'est de savoir écrire des textes. Je pense que c'est vraiment ça.
Ouais.
Et ce que l'on dit, moi, lorsque je rencontre des jeunes auteurs et qui veulent écrire des chansons, je dis, mais faut que tu lises, mon gars, quoi. Lis des bouquins.
Il suffit pas de prendre une page
blanche. Voilà, faut conjuguer un verbe, quoi. Et puis le conjuguer de manière, voilà, c'est juste ça, quoi. Parce que, quelquefois, on entend en ce moment des trucs ça fait drôle. C'est d'ailleurs la force que l'on a avec ET 44, dont on parlera tout à l'heure.
Alors, en tout cas, vous êtes les jeunes chanteurs français, vous les avez tous beaucoup fréquentés à l'Olympia, mais même avant à Lille, parce qu'il faut dire que vous avez été assez vite, finalement, au-delà du fait d'être musicien de rock, très engagé donc dans l'organisation, au fond, de la vie musicale. D'abord, dans le Nord, on ne parlait pas encore tellement à l'époque de la diversité culturelle. culturelle et d'aller dans les quartiers, etc. Vous avez fait Quartier d'été déjà en 1990.
Hein. Ah, j'ai créé Quartier d'été avec, avec Michel Delebarre, qui est ouais. Outre, qui était ministre de la ville à l'époque, mais qui est surtout mon ami. Et puis on a créé cette tournée Quartier d'été dans les quartiers en DSQ, on disait à l'époque. Le développement social des quartiers.
Ah, voilà.
J'avais fait venir beaucoup d'artistes dans ces quartiers, ouais. Et c'était l'idée. On avait des ateliers de musique avec les artistes, etc. C'était une tournée itinérante qui durait 2 mois, et c'était absolument incroyable, extraordinaire. On a fait des choses qui étaient étonnantes, et je me dis, malheureusement, je pense que ce serait impossible à faire maintenant, mais c'est un échec terrible. Mais bon, voilà. Mais j'ai fait ça pendant plusieurs années avec Michel.
Et puis alors, vous avez été donc associé alors de plus en plus étroitement et à un niveau professionnel de plus en plus élevé, si j'ose dire, à la vie musicale, donc d'abord lilloise, avec Le Nouveau Siècle et ensuite ouais. Le Zénith. Alors Le Nouveau Siècle, on le connaît à France Musique, c'est aussi la salle de Jean-Claude Casadesus, dans l'Orchestre National de Lille, ouais. Et maintenant d'Alexandre Bloch également, ouais. Son successeur. Mais
C'est-à-dire que Le Nouveau Siècle appartenait au Conseil Régional, Michel Delebarre était vice-président du Conseil Régional, et puis à un moment il fallait construire ce Zénith, et pour construire ce Zénith, il fallait que la ville, oui, rachète Le Nouveau Siècle, mais dans Le Nouveau Siècle, il y avait l'orchestre, c'était la maison de l'orchestre et l'auditorium de l'orchestre.
Vous entendiez bien avec Jean-Claude Casadesus.
Très bien, très très bien, évidemment.
Et c'est la curiosité de toutes les musiques.
D'ailleurs, la chanson Flashback, avec pour les 10 ans de l'orchestre, vous voyez, c'est pas hier, on rentrait des États-Unis, on avait joué avec... il avait fait Flashback avec l'orchestre, et je me suis retrouvé à diriger cette salle, et en même temps avec la mission de l'ouvrir vers le music hall, et donc il a fallu négocier avec l'orchestre, et Jean-Claude a été formidable avec les gens de l'orchestre, parce que il est certain que quand vous avez un auditorium pour un orchestre de cette taille pour y répéter, et qu'on vous dit, ben non, il va y avoir Eddie Mitchell tel jour, il va y avoir tel truc, et puis voilà, bon, et j'en ai fait, ça c'était en attendant le Zénith, et puis ensuite j'ai finalisé la construction du Zénith et fait cette fameuse inauguration du Zénith.
Avec Ville, ZZ Top.
Avec mes copains de ZZ Top, ça pouvait pas être...
Vos copains, car vous les connaissez bien.
Oui, c'était...
Quelle chance.
Ça pouvait pas être autrement que eux, et ils ont fait Opening Night, et c'était une soirée exceptionnelle, et je me rappelle Pierre Monroy, j'ai une photo qui me suit dans tous mes bureaux, où il y a Pierre Monroy, avec Dusty Hill, Big Z, Billy Gibbons et Frank Bird, et Pierre Monroy, il avait un grand plaisir, il avait une petite lumière dans l'œil lorsqu'il disait ZZ Top, ça le faisait beaucoup rire. Et il avait la petite lumière dans l'œil lorsqu'il voyait les danseuses qu'avait ZZ Top sur scène.
Bon, alors du Zénith de Lille à l'Olympia de Paris, il n'y a qu'un pas. Entre deux, le succès aussi comme éditeur de musique avec Patsy, la chanson Liverpool, etc. Ça
mais vous savez tout.
Voilà. Bon,
vous savez
quand même, tout. Je suis là pour ça. Ah,
ouais. Avec mon copain Christian Vier. Ouais. On a été associés et éditeurs, Christian ayant écrit la chanson avec Pascal Detoff qui a fait la musique, d'un gros hit qui était Liverpool, la chanson de Patsy, puis l'album derrière, puis on était très à la fois business et en même temps très artiste parce qu'on a commencé à faire des clips qui étaient complètement dingues avec des coûts astronomiques. Donc sur une artiste qui a très très bien marché, on a quand même trouvé le moyen de perdre beaucoup d'argent. Mais c'était
enfin, c'est tout formidable. Ce que vous dites, c'est cette passion pour tout ce qu'il y a autour de la musique, tout ce qu'on peut faire avec
évidemment,
la musique, etc.
Évidemment, avec Stox, j'ai récupéré les éditions très vite, et le publishing pour moi a toujours été extrêmement important.
Et puis il y a donc cette arrivée à l'Olympia. Alors là, je fais une petite séquence qui n'a pas à voir directement avec vous, mais je me suis dit, tiens, c'est quand même l'occasion de faire un petit saut dans le passé. On va écouter quelques secondes la voix de Bruno Cocatrix qui évoque, qui évoque son métier, un peu comme vous l'avez fait d'ailleurs, c'est pas tellement différent, dans une émission de Jacques Chancel.
Si on veut pouvoir diriger l'établissement, un établissement comme l'Olympia, d'une façon efficace, il faut pouvoir connaître tous les départements d'un théâtre. Or, il se trouve que dans cette période de vache maigre dont je vous avais parlé tout à l'heure, j'ai été obligé d'être machiniste, d'être électricien, d'être régisseur, d'être contrôleur. Tous les métiers
du théâtre. D'être compositeur.
Oui, ça a été une carrière parallèle que j'ai menée en même temps que le reste, mais qui a été très longue à donner des résultats. Ça n'est qu'en 1939 que j'ai fait ma première chanson à succès.
C'était quoi ?
C'était Mon ange.
Qui veillait sur moi ?
Oui, qui veillait sur moi, et cet ange a continué à veiller sur moi, heureusement, car j'en ai eu bien besoin.
Connais pas, un beau soir me prendra dans ses bras, un monsieur entrera sans attendre dans ma vie, dans mon cœur, dans ma chambre. Ce monsieur dont je rêve parfois m'apparaît différent chaque fois, mais le vœu dont ce soir je me berce tout bas, dès qu'il ressemble un peu à ce monsieur-là. Les hommes qui me font des avances sont parfois bien séduisants. Pour le tennis et pour la danse, je les trouve très suffisants. Mais quand je pense au mariage, je me demande souvent si le garçon dont le visage me semble doux et charmant se montrera plein d'agréments comme un amant dans le moment du grand moment. Un monsieur je ne connais pas, un bon soir me prendra dans ses bras. Un monsieur entrera sans attendre dans ma vie, dans mon cœur, dans ma chambre. J'aimerais sans commettre un faux pas essayer deux ou trois candidats. Sera-t-il un poète, un boxeur, un pacha? Sera-t-il audacieux, ce monsieur-là?
Voilà, j'oublie pas que cette émission est aussi l'émission de l'opérette. Et ben voilà justement une opérette de Bruno Cocatrix. Ça s'appelait Les Pieds Nickelés en 1949 avec les frères Jacques et Irène Hilda qu'on vient d'entendre ici et que je salue. Peut-être qu'elle nous écoute, cette chère Irène Hilda. Moi, je suis avec Arnaud Delbar, donc successeur de Bruno Cocatrix entre 2002 et 2015 à la tête de l'Olympia. D'abord, précision, vous l'avez dit juste avant, c'était un ch'ti aussi.
Ben évidemment, c'est un ch'ti, il est né à Ronchin. Il est né à Ronchin, juste dans la banlieue lilloise.
D'accord.
Ah non, ça a toujours été une maison de ch'ti.
D'accord, il est logique.
Oui, bien sûr, évidemment. Ça m'a beaucoup touché ce qu'il disait de savoir faire
tous les métiers.
Mais
ouais.
Évidemment,
c'est exactement ce que vous disiez au début de l'émission, finalement.
Mais évidemment, et y compris jusqu'à mettre un fût de bière en Perse. Moi, je l'ai fait devant mes équipes. Et puis, du coup, vous regardez d'un autre œil, quoi. Voilà.
Donc, Cocatrix, évidemment, sont les très grandes heures de l'Olympia, mais il y a également son successeur, Jean-Michel Boris, qui a été un grand directeur, que j'ai reçu également ici, et avec qui vous avez plutôt joué, on peut dire, la continuité quand vous êtes arrivé.
Mais immédiatement, puis on se connaissait bien avec Jean-Michel avant. Avant que Pascal Nègre, parce que c'est Pascal Nègre qui m'a appelé.
Voilà,
qui
parce qu'entre temps, il faut dire, donc, l'Olympia a été racheté par.
Par Vivendi. C'était Jean-Marie Messier qui avait eu cette formidable idée, d'ailleurs, de racheter. Et puis qui avait dit, comme c'est de la musique, il avait dit à Pascal, tu vas t'en occuper. Pascal Nègre a été directeur en titre quelques mois de l'Olympia, il fallait bien.
Et donc, Jean-Michel Boris a continué à travailler un peu avec
moi.
Avec
moi, pendant 2 ans, bien sûr, il a été mon conseil. Et puis, il a adhéré, bien évidemment, on parlait tout à l'heure de toute cette notion de musical, des attraction, etc. Il a adhéré, il m'a beaucoup aidé parce qu'il me racontait des anecdotes, il me disait des choses, comment faire, etc. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect, et je l'inculque à mes enfants et à mes petits-enfants, toujours beaucoup de respect des anciens.
Voilà. Vous avez bien raison, voilà. Oui. L'Olympia, donc, entre les mains, on peut dire, d'une grande maison de disques, c'est même une major, comme on dit, Universal. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation pour un groupe comme Universal d'utiliser simplement une grande salle comme ça, mythique, pour faire la promotion de ses artistes?
Je vais vous dire, c'est comme tout, c'est une question d'homme. Moi, pendant les 14 ans où j'ai travaillé, je n'ai jamais eu la moindre...
Et d'ailleurs, c'était vous n'étiez pas obligé de programmer des artistes
marrait,
Universal.
On en rigolait avec Pascal, bien évidemment. Là, maintenant, les hommes ont changé, les chevaliers d'industrie, industriels, industrieuses et industriels, font, ils ont très envie de faire ça, mais qu'ils le fassent.
Alors, si on demandait, j'imagine, évidemment, à Cocatrix ou à Jean-Michel Boris, les grandes heures de leur direction de l'Olympia, on aurait tout de suite les noms de Brel, de Piaf, de Joséphine Baker, de quelques autres. Vous, c'est quoi vos grandes heures entre 2002 et 2015 ?
Lorsque je suis arrivé en 2002, c'est vrai que ça enronnait un petit peu. Bon, voilà, c'était... bon, c'est un peu compliqué. Et puis ensuite, on a fait ce pari de retravailler l'image, de re-raconter une histoire. Le parcours que j'ai fait pendant 15, 20 ans d'être musicien, etc., fait que j'ai croisé générationnellement tous mes potes étaient patrons de boîtes de prod, etc., que j'avais connus quand on était musicien de baloche ou musicien de rock ou juste à boire des verres dans les bistrots. Donc on s'est retrouvés générationnellement très proches. Donc j'ai rappelé tout de suite mes potes, les coups de main. J'ai appelé mon copain Alain Lahana. Il m'a dit on va faire David Bowie. Bon ben on fait, je suis arrivé depuis 6 mois, on fait David Bowie. Alain me dit tu connais un petit gars qui s'appelle Raphaël? Puis je dis oui, j'ai entendu parler de lui. Il est fan de Bowie, ce serait bien qu'on le mette en première partie. On met, et le petit Raphaël avec sa guitare. Et si un jour vous interviewez Raphaël, c'est un de ses... Et
un c'est un moment important
C'est le moment de sa vie. Attendez, lorsque Raphaël descend de scène, il y a quand même David Bowie en peignoir qui vient le saluer et dire que c'était formidable. Ouais, c'est des choses qui marquent. J'ai plein de choses comme ça, mais après j'ai
ou deux qui vous tiennent particulièrement à cœur.
Ce qui tient à cœur, ce que m'a fait Paul McCartney, et que j'étais seul avec mon épouse dans la salle pendant la balance, et qu'à un moment on se regarde tous les deux, et puis on a la petite larme. Et puis, je me suis battu pour faire venir ZZ Top. J'ai écrit à Billy Gibbons, et puis son producteur français, Gérard Roux, m'a beaucoup aidé. Et ils sont venus à l'Olympia, ils ont joué à l'Olympia. C'était quelque temps, un an et demi avant que je ne parte. Et ce show restera dans ma... Mais ça, c'est par rapport à mon kiff à moi. Mais il y a eu des moments exceptionnels au niveau de... Dans tous les styles de musique, y compris, on a fait des concerts classiques, on avait fait des concerts de jazz extraordinaires. Il y a un artiste de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Trombone Shorty, que je ne connaissais à peine et qu'on a produit à l'Olympia, qui était capté sur Arte en direct. C'était, pour moi, un des plus grand show que j'ai vu avec cet artiste, Trombone Shorty. Écoutez ça, allez voir sur internet, c'est extraordinaire.
Et la chanson française d'aujourd'hui, vous la voyez plutôt en forme ou plutôt à la recherche d'elle-même?
On va dire qu'elle est à la recherche d'elle-même, parce que être auteur-compositeur à aujourd'hui et en vivre quand on est jeune et qu'on a besoin d'un peu de moyens pour créer, fait que maintenant avec tous ces trucs sur internet où il n'y a plus de monétisation, tout ça, donc les gens ne gagnent plus les petits sous qui permettent d'eux, les maisons de disques n'ont plus les moyens de... Souvenez-vous, il y a encore quelques années, une maison de disques ou une maison d'édition signait un artiste, elle le salariait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour qu'il puisse travailler, etc. Ça n'existe plus, tout ça. Donc, je pense, moi je l'ai dit au ministre de la Culture successif, qu'ils seront comptables, depuis Adopi, le refus d'Adopi, du fait que il va y avoir une rupture de 3 ou 4 ans dans la création des jeunes auteurs-compositeurs français. On le voit avec la qualité de ce qui sort en ce moment, il n'y a pas... Pas photo.
Bon, bah, retournons un instant aux grandes heures de l'Olympia avec un des artistes qui ont immortalisé cette maison. Et une chanson, je crois que vous aimez beaucoup, c'est Les Bourgeois par Jacques Brel.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova, et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
Voilà, on n'est pas très loin du monde de Raoul de Godswarsveld.
Ah ben, on est juste
Arnaud
à côté.
Delbar, là, avec Jacques Brel.
Et la vraie histoire, c'est qu'il a vécu ça, et il parle de la bourgeoisie de Moucron. Moucron, c'est juste à côté de Roubaix.
Ah oui.
C'est le côté belge. Moucron est la ville de naissance de Raymond Devos.
Ah bon?
Qui est né rue du Christ à Moucron. Et Jacques Brel.
Qui a été d'ailleurs dans l'aventure de l'Olympia avec vous.
Qui a été l'aventure de l'Olympia. Hein, sur le musical, il a été le parrain du premier spectacle de musical qu'on a monté. Qui s'appelait voilà. Quand Dieu s'emmerde, il va au musical, tant pis. Mais lorsqu'il parle de l'auberge du Montalent, c'est pas l'auberge du Montalent, c'est au Montaleux. Le Montaleux existe à Moucron. Lorsqu'il parle de Pierre, il parle de Pierre Sély, qui était le producteur de Raoul de Godswarsveld.
Ça vous parle dans le détail.
De mon père, bien sûr. Et puis, il m'a été raconté que et c'est Pierre Sély qui me l'avait raconté. Il y a eu une soirée extraordinaire à Lille entre Jacques Brel et Raoul, tous les deux, où ils se sont vus au Royal Hotel à l'époque, dans le centre de Lille. Ils se sont vus vers 21h et ils se sont quittés vers 6 ou 7 heures du matin, après être allés dans des endroits avec des dames de petite vertu. Voilà.
Même quand vous êtes devenu Arnaud Delbar, un personnage très très important du show business parisien, vous êtes resté toujours un peu du Nord. Vous avez continué à aller là-bas le week-end, etc.
Non, mais parce que j'ai jamais eu l'impression, et j'ai jamais voulu être un personnage important du show business parisien, et qu'ensuite, dans le deal que j'avais avec Pascal Nègre, parce qu'il est venu me chercher, j'étais à Lille, moi j'étais très bien, j'étais président du Zénith de Lille, j'étais tout allé parfaitement bien.
Dans le deal, j'aurais droit de passer mes week-ends dans le Nord.
Ah, mais dans le deal, il y avait, je passe mes week-ends dans le Nord.
C'est vrai.
Quoi qu'il arrive, bien évidemment. Et nous en avons parlé une fois avec Pascal, et je le remercierai toujours, quand on a fait nos premières négociations, une fois, 3 minutes, et nous n'en avons plus jamais reparlé pendant 15 ans. Voilà. Et ça, je dois dire que... Parce qu'il avait compris que, quelque part, j'ai traité beaucoup de dossiers au niveau de l'Olympia avec une certaine... j'avais l'habitude de dire, mon attaché de presse, et il me disait, mais il ne faut pas dire ça. Je suis simplet, moi. Je suis sujet, verbe, complément. Donc je ne me posais pas de questions par rapport à plein d'actions que j'ai eues avec l'Olympia. Je n'avais pas de compte à soi, je n'avais pas de... Voilà. Et puis tous les matins, je me disais, ça peut s'arrêter demain. Et puis le jour où ça s'est arrêté, ça durait 22 secondes. Et ça ne m'a posé aucun problème, et ça ne m'en pose aucun.
Donc vous êtes toujours Lillois ?
Je suis Lillois, parisien 2 jours par semaine, parce que j'ai promis à ma femme que je ne serai pas plus de 2 jours par semaine à Paris, et je tiens le coup. Et puis le reste du temps, on voyage beaucoup et on rencontre beaucoup de gens extraordinaires.
Voilà. Vous vous sentez en fraternité avec les Picards qui vous ont rejoint dans les Hauts-de-France ?
Bah, bien sûr, bien sûr. Ah, écoutez, alors, mon ami Danny Boone, on est allé la semaine dernière voir son spectacle en avant-première. Et le sketch, je vous demande vraiment, écoutez, allez le voir à l'Olympia, déjà il y est en ce moment, mais allez voir son sketch sur les Hauts-de-France, c'est extraordinaire, voilà. Il a fait un sketch sur les Hauts-de-France.
Ah oui, j'ai entendu.
Et il chante une chanson, ne m'appelez jamais plus Bilout. Je t'embrasse, Danny, si t'écoutes.
On va écouter un extrait de Un été 44, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, la comédie musicale qui arrive maintenant à l'affiche parisienne.
C'est la première dans quelques jours. Oui, c'est un spectacle qui vous touche, puisque c'est vous êtes normand, et ça raconte la petite histoire avec 3 jeunes garçons et 3 jeunes filles qui racontent du 6 juin 44 au 28 août, avec des chansons écrites par Jean-Jacques Goldman, chansons originales écrites par Jean-Jacques Goldman, Éric Benzi qui a participé à toute la carrière de Jean-Jacques et de Céline Dion, Charles Aznavour, Maxime Le Forestier, il faut pas que j'en oublie, hein, Alain Chamfort, Sylvain Lebel qui est un Normand, et il y a vraiment de très belles chansons.
Et il y a une vraie histoire aussi, c'est pas juste une suite de chansons.
Ah non, il y a une vraie histoire avec une scénographie.
Avec une petite histoire d'amour entre une Française et un soldat allemand, comme Arletty.
Il y a une histoire d'amour entre une Française et un Allemand. Allez voir le clip est absolument sublime et raconte très très bien et donne très très envie d'aller voir le spectacle. Bien évidemment, c'est au Comédia et ça s'appelle Un été 44.
C'est un regard au coin d'une rue, au hasard de cœur perdu. C'est une histoire d'amour, de guerre. C'est juste un soir, c'était hier.
Une jeune Française et un Allemand. Y'a un malaise, évidemment. On va tout faire pour s'éviter et se défaire de cette idée.
Mais le destin tisse sa toile sur nos chemins, sous les étoiles. On voudrait bien mettre les voiles. On s'enfuit loin, mais au final, le monde n'est jamais assez grand pour deux cœurs qui se cherchent. L'amour attrape les gens, change leur destin de ses flèches. Le monde n'est jamais assez grand pour deux cœurs qui espèrent. Rien n'empêche les amants. Pas même le bruit des guerres. C'est improbable mais bien réel. Inévitable mais irréel.
Il est trop tard pour oublier. Faut se revoir, c'est obligé.
C'est le destin qui nous entraîne sur son chemin d'amour, de haine.
C'est un ennemi. C'est mon pays ou celui que j'attends.
Le monde n'est jamais assez grand pour deux cœurs qui se cherchent. L'amour attrape les gens et change leur destin de ses flèches. Le monde n'est jamais assez grand pour deux cœurs qui espèrent. Rien n'empêche les amants. Pas même le bruit des guerres.
Meine Liebe, comme disait Goethe, les hommes déprécient ce qu'ils ne peuvent comprendre. Tu vois, j'entends déjà les cris des chiens de la meute qui nous poursuivent et ne veulent rien entendre.
Mon aimé, il y aura forcément un après. Mais quoi que nous réserve l'avenir, je n'aurai pas le moindre regret. Ni toi, ni moi, finalement, n'avons pu choisir.
Sarah Lane et Philippe Crière dans ce duo d'un été 44, donc à l'affiche du Comédia, spectacle auquel vous êtes, on peut dire, étroitement associé aussi à travers votre ami le producteur,
à travers votre fils
également.
Et Valérie qui a pris HS Productions, la société de mon fils, Jules Delbar, comme producteur exécutif du spectacle. C'est comme ça que je me suis retrouvé un petit peu à conseiller. Et Jules avec Simon, son associé, qui sont aussi des ch'tis, qui sont lillois,
qu'on fait aussi de la musique, enfin, c'est un peu la même histoire.
Ouais. Hein, Jules était dans son groupe BP Zoom, et son associé était son agent et manager, et c'était Valérie Zetoun qui avait produit leur premier album. Non, mais c'est des histoires d'hommes et des histoires de vie, et c'est ça qui est formidable. Et maintenant, Jules aussi produit des artistes, outre la production exécutive d'un été 44. Je tiens à dire que les arrangements, c'est Christian Vieille qui a écrit cette chanson, le texte et la musique que l'on vient d'entendre, c'est Jean-Pierre Marcellesi. Les arrangements, c'est Éric Benzi qui Michéa qui a fait toute la direction musicale du spectacle. Et derrière, vous entendez, c'est l'Orchestre Symphonique de Skopje qui joue. Et là, j'ai un clin d'œil avec mon ami Laurent Petit.
Voilà, à propos d'orchestre, moi je me rappelle très bien d'ailleurs quand l'Orchestre Colonne a présenté à la Salvagram sa nouvelle saison, voici quelques mois, vous étiez là avec lui pour... alors c'est quoi votre lien avec la musique classique, l'Orchestre Colonne, la Salvagram, expliquez-nous
parce que l'idée est venue dans mon esprit malade, c'est que nous avions répondu à l'appel d'offres pour Playel, avec l'Olympia et avec Universal, nous n'avons pas été retenus. Et j'avais rencontré le président de Rossit, qui était le groupe avec qui nous étions associés, qui possède la Salvagram. Et j'avais un déjeuner...
Très belle salle, près de l'Étoile à Paris.
Sublime salle, avec une histoire extraordinaire et une acoustique fantastique, puisque Karajan a enregistré là, ils ont tous enregistré là-bas. Dans un déjeuner avec Laurent Petit-Girard et Jean-Noël Tron, j'ai dit, mais attends, il faut absolument... Playel ne pouvant plus faire de classique, il n'y a plus classique dans le sang, mais ayant plus le droit, interdit. Puis en plus, comme nous, on n'avait pas été retenus pour l'appel d'offres, ça nous faisait un petit clin d'œil, un petit sourire. Donc, voilà. Et donc, l'Orchestre Colonne, Laurent Petit-Girard, va les trois prochaines saisons, donc un accord de coproduction entre la Salvagram et l'Orchestre Colonne. Et j'en suis un peu à l'origine. Ça fait partie des choses que je fais maintenant avec plaisir, c'est de mettre les gens
des croisements,
ensemble,
des croisements,
des rencontres, pour réinventer des choses et puis pour éviter des choses trap.
Et ben on l'a compris, Arnaud Delbar, et on espère que vous allez continuer longtemps comme ça à brancher les prises et à rencontrer les gens.
Je m'amuse, j'en ai le temps, j'ai 58 ans, j'ai maintenant le recul nécessaire, et puis je vis les choses un peu différemment, mais avec un peu de recul, et j'essaie d'avoir une certaine, mais encore plus de sagesse et de bonhomie comme nous savons être, nous ch'tis.
Dans cette famille, on se quitte avec David Zink, juste un mot.
David Zink, c'est un artiste qui est produit par mon fils, c'est un artiste anglais qui vit à Nice et qui fait... vous allez écouter,
c'est
ça,
très
c'est
joli,
une grande, grande, grande chanson et c'est un grand artiste. Écoutez, ça va arriver, vous allez en entendre parler.
We caught fire in a hurricane, but no one spoke of the love you gave. When one man's pocket is another man's grave, then all that's left is a golden cage. Well,
David Zink, Oma, et c'était l'un des choix de mon invité Arnaud Delbar. Et vous l'avez compris, Arnaud Delbar vous recommande également de ne pas manquer la comédie musicale Un été 44 au Comédia à Paris. Ça vient de commencer et c'est jusqu'au 26 février prochain. D'un pied léger, une polka rapide de Joseph Hemmelsberger Jr. sous la direction de Zubin Mehta. Et puisqu'il nous reste quelques minutes avant de retrouver Serge Laïc, je voudrais vous faire entendre deux opérettes qui nous font monter exactement un siècle en arrière. Vous savez, on parle beaucoup des commémorations de la Première Guerre mondiale, mais il faut dire aussi que pendant la guerre, eh bien, l'opérette continuait à Paris comme à Vienne. Et c'est le cas avec ces deux grands succès, tous deux créés fin 1915 et qui ont duré toute l'année 1916. Le premier, c'est à Paris, au Théâtre de l'Apollo, La Cocarde de Mimi Pinson, opérette patriotique d'Henri Goublier fils. Vous savez, les Mimi Pinson ce sont ces jeunes filles qui cousaient des cocardes tricolores pour les uniformes des poilus. Et dans l'opérette, eh bien, la jeune fille en question va glisser un médaillon dans la cocarde. Et ce médaillon va permettre aux soldats, aux jeunes soldats, son amoureux, d'être sauvés parce que la balle sera déviée par le médaillon. C'est toute l'histoire de la cocarde de Mimi Pinson, dont on entend cet air de l'acte 1 chanté par Liliane Berton.
Petite cocarde, si tu pouvais aller trouver celui que j'aime, être placé près de son cœur, il me semble que tu écarterais de lui tout danger. Mais comment te faire parvenir sans qu'il se doute? Je trouverais bien un moyen. Et ces petits bouts de ruban que j'embrasse de toute la force de mon amour seront pour lui un talisman.
Sur un air de valse lente, très 1900, c'est donc Marie-Louise qui chantait son amour dans la cocarde de Mimi Pinson d'Henri Goublier fils, très grand succès de l'année 1916. Et c'est peut-être d'ailleurs un trait très parisien que d'avoir utilisé une actualité aussi tragique que la guerre pour en faire quand même une opérette mêlant le mélo et aussi les scènes comiques. Inversement, sans vouloir généraliser, on pourrait dire qu'à Vienne, pendant la guerre, eh bien, l'opérette sert plus à s'évader de ces événements tragiques. Et c'est le cas notamment dans le premier grand succès d'Emmerich Kallmann, Princesse Xardas aux accents tziganes, avec ce merveilleux duo du premier acte chanté par Annelise Rothenberger et Nicolas Guéda.
Thank you. bin ich halt an der Tour. Mag ich tausend, tausend Mal auch sagen, du musst also, gib doch Ruhe. Hör ich spottet es zur Antwort schlagen, ich bin stärker freund als du.
Und frag ich dich, warum grad ich von allen Frauen grad ich?
Ich weiß hier keine Antwort drauf, wir lösen hier wohl diese Rätsel auf. Ja,
Geda Rottenberger, l'opérette viennoise au sommet dans cet enregistrement de la princesse Xardas de Kalman, enregistrement de 1971 dirigé par Willy Mathès.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais sans plus attendre, nous allons retrouver l'ami Serge Elaïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Serge, quand vous ne nous parlez pas des grands arrangeurs, vous avez bien voulu aussi reprendre un peu le sillage de notre ami Pierre-Marcel Onder pour nous proposer des programmes variés de musique légère, et c'est le cas donc ce matin.
Tout à fait, mais alors avant de débuter cette nouvelle chronique, donc je voudrais préciser qu'autour du chef Klaus Augermann, dont nous avions dressé le portrait il y a 4 semaines, eh bien, il régnait un mystère autour de sa disparition.
Klaus Augermann, on ne savait pas s'il était mort ou pas.
Et
quand,
tout à fait.
Etc.
Et en fait, la confirmation est arrivée il y a quelques jours. Klaus Augermann est bien décédé à 85 ans le 8 mars dernier.
Voilà, immense arrangeur, notamment de Gilberto et de
Carlos Jobim.
Jobim, de tant d'autres. Aujourd'hui, donc, musique légère et
tout
divertissante au programme.
Divers styles de musique instrumentale. Alors, la musique de divertissement ouvre le bal avec avec l'orchestre de Marty Gold, qui fut un des maîtres de la musique orchestrale outre-Atlantique. Et alors, c'est pour un label, le label RCA, qu'il a enregistré pratiquement tous ses disques, dont le brillant Tipitine.
Tipitine, arrangement et direction d'orchestre Marty Gold, un enregistrement de 1956 pour ouvrir le bal, mon cher Serge. Et puis alors je crois aussi que vous avez voulu profiter qu'on est tout près de la Toussaint,
exact,
pour rendre hommage à quelques disparus récents de la musique légère.
Et oui, comme le musicien belge Toots Thielemans, considéré comme le roi de l'harmonica, eh bien il est mort tout récemment, en août 2016, il avait 94 ans. Il était harmoniciste, il était guitariste, siffleur, et en fait, le premier instrument qu'il avait appris fut en fait l'accordéon. Ensuite, il s'est installé aux États-Unis à la fin des années 40, et Toots Thielemans a travaillé avec les plus grands noms du jazz, Ella Fitzgerald à Charlie Parker, Bill Evans, Quincy Jones, plein d'autres, beaucoup d'autres. Compositeur à 16 heures, eh bien c'est en 1962 qu'il écrit Bluesette, véritable tube planétaire, vraiment repris par des, je vais dire presque des centaines d'artistes, comme par exemple André Kostelanets et son orchestre.
Excellente cette bluesette, hein, mon cher Serge et Laïc. Ouais. Très belle version de l'orchestre André Costellanet de 1964 pour cette composition du disparu, donc Toots Thielemans. Et vous, en voici un autre maintenant dont je suis très heureux que vous parliez parce que je l'aurais fait incessamment sous peu. Je le ferai peut-être d'ailleurs, j'avais eu le plaisir de le recevoir dans
Tout
cette émission. Des auditeurs n'ont pas manqué de me signaler, bien sûr, qu'il nous a quitté Georges Jouvin, la trompette d'or.
Exact.
Ce grand musicien et cet homme très sympathique.
Absolument.
Je vous laisse la parole.
Alors, il a disparu tout récemment, le 24 octobre dernier. Il avait 93 ans et ce célèbre trompettiste était élève du Conservatoire de Paris. Il avait terminé ses études à 20 ans avec en poche 3 premiers prix. Alors, ce fut un multimillionnaire du disque, 25 fois disque d'or, voyageur pour de mémorables concerts en France. Il n'arrêtait pas de tourner en France, comme à l'étranger d'ailleurs. Georges Jouvin fut, comme vous venez de le dire, surnommé par les journalistes l'homme à la trompette d'or, instrument en or qu'il reçut lors d'une cérémonie à Paris en 1958. Il avait une vraie trompette d'or.
En or massif, vous
ah
croyez
oui, massif, je ne sais pas. Alors, son ami, le grand parolier Claude Lemel, que vous avez reçu il n'y a pas longtemps, il suffit de citer Joe Dassin, Reggiani ou Fugain, eh bien, Claude Lemel a bien voulu évoquer, comme il l'a fait le jour des obsèques de Georges Jouvin il y a quelques jours, eh bien, Claude Lemel nous dit quelques mots à propos de son ami.
Ben, Georges Jouvin, c'était vraiment l'élégance personnifiée. Il avait toujours une présentation impeccable, une élégance naturelle, doublée d'une élégance vestimentaire incontestable. Et cette élégance, elle ne se manifestait pas seulement d'une façon visible. Elle se manifestait aussi au niveau de ses relations humaines. C'était quelqu'un qui était soucieux du bien-être de ses amis. Et puis c'est quelqu'un aussi dont l'élégance a été jusqu'à servir son métier, eh bien, il n'a pas été ingrat par rapport à ce que toute la vie et toute la musique lui avait apporté. Il a essayé de rendre à la vie la chance qu'elle lui avait donnée et à travers toute son action syndicale, au syndicat des chefs d'orchestre et aussi, bien sûr, l'action pour le droit d'auteur à la SACEM, à la SDRM. Donc, c'est vous dire si son activité était inlassable et toujours empreinte d'une très grande courtoisie, d'une grande bonté. C'est quelqu'un dont on lisait vraiment la bonté dans les yeux. C'est assez rare, ça.
Hello Dolly, en 1974, par Georges Jouvin, sa trompette et son orchestre. Merci pour cet hommage, Serge Laïc. Et je pense que d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir avec joie à la mémoire de ce cher Georges Jouvin.
Il le mérite vraiment. Et alors, le célèbre chef d'orchestre américain, on va parler d'un autre chef d'orchestre américain, Ray Conniff. Lui, il est décédé il y a longtemps, il y a 14 ans, mais il était né le 6 novembre 1916 et donc il aurait eu 100 ans demain. Et donc, Ray Conniff fut l'un des meilleurs trombonistes à l'époque du swing, le swing era, comme on disait, dans les années 40. Il jouait dans des orchestres prestigieux, Artie Shaw, Harry James, avant qu'il ne se lance lui-même dans la carrière de chef d'orchestre, arrangeur, ce qu'il a fait avec brio, puisqu'il a accompagné plein d'artistes américains, comme Johnny Mathis ou Tony Bennett, par exemple, les crooners. Mais c'est en 1956 qu'il devient célèbre, en créant son style, qui a mêlé voix et instruments de façon indissociable, style qui fera le tour du monde et qui sera imité de très nombreuses fois par de nombreux chefs d'orchestre. Alors, si Ray Conniff était un brillant tromboniste, chef d'orchestre, non moins brillant, il avait aussi le don de siffler parfaitement. Petite curiosité à redécouvrir ce jour.
Ray Conniff qui siffle et dirige ce Cheikh d'Arabie en 1966.
Serge Alors on Laïc. Termine avec Reginald Kilbey qui était violoncelliste mais qui a enregistré comme chef d'orchestre quelques albums voués à la musique légère anglaise, dont la musique Happy Time est une parfaite illustration.
Happy Times, c'est un enregistrement de Reginald Kilbey qui vous était proposé par Serge Elaïc. À bientôt, mon cher Serge.
À la prochaine fois et merci beaucoup.
Étonnez-moi Benoît, une émission préparée par Annie Comier. Vous était proposée aujourd'hui avec à la technique Julien Calvas, entouré d'Antoine Giraud, Manon Dubus, réalisation Christine Amado. Quant à moi, je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine et mon invité, ce sera Marie-Thérèse Orin. Bon week-end à tous sur France Musique. Vous avez rendez-vous maintenant avec Philippe Venturini.
Merci Benoît Dutertre, on vous retrouve samedi prochain.